à Washington.
Jean-Roger Bien, bonjour à tous. Il est 10h en temps universel. La justice turque va ouvrir vendredi le procès par contumace de 20 Saoudiens qu'elle accuse de l'assassinat en 2018 à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, a annoncé mardi sa fiancée. Jamal Khashoggi, 59 ans, détracteur du pouvoir de la famille royale saoudienne, après en avoir été proche et collaborateur du Washington Post, a été assassiné et puis découpé en morceaux le 2 octobre 2018 à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie, où il s'était rendu pour obtenir un document. Selon la Turquie, les restes de la victime n'ont jamais été découverts. Levé en octobre prochain, l'embargo sur les armes pour l'Iran reviendrait à donner à ce pays une épée de Damoclès sur la stabilité économique du Moyen-Orient, a averti à l'ONU le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ces arguments ont été rejetés par Pékin et Moscou. Le point avec Eki Abadou.
Les États-Unis ont remis à leurs 14 partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution pour une extension sans limite de l'embargo sur les armes à l'Iran et qui vient à expiration le 18 octobre prochain. Dans une vidéoconférence hier, Mike Pompeo a tenté de convaincre les autres membres du Conseil. La Chine s'oppose, affirmant que les États-Unis ne sont plus membres de l'accord sur le nucléaire iranien et à ce titre n'ont plus le droit de déclencher un retour de sanctions au Conseil de sécurité, d'après Zhang Jun, l'ambassadeur chinois à l'ONU. La Russie a aussi rejeté « Nous ne pouvons accepter les tentatives américaines de faire légitimer par l'ONU la politique de pression maximale », a dénoncé l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia. Le diplomate russe a par ailleurs critiqué le fait que Mike Pompeo a choisi de quitter la vidéoconférence avant son intervention.
Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus a plus que doublé en juin dans 14 États américains, parmi lesquels la Californie, la Floride et le Texas, selon une analyse effectuée par l'agence Reuters sur la base de données officielles. Au cours de la semaine écoulée, 21 États américains ont fait part d'un taux d'infection supérieur au seuil de 5% que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a dit considéré comme préoccupant. Plus de 2,7 millions de cas de contamination ont été recensés depuis le début de l'épidémie aux États-Unis, où le coronavirus a tué plus de 126 000 personnes. Le nouveau président burundais, Evariste Ndayishimiye, a déclaré mardi le COVID-19 comme le plus grand ennemi des Burundais, imposant une volte-face complète à son pays qui avait jusqu'ici largement ignoré l'épidémie. Il s'agit d'un revirement absolu par rapport à l'attitude de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin, officiellement d'un arrêt cardiaque qui avait estimé que le Burundi était protégé par la grâce divine. Le gouvernement précédent n'avait pas imposé de confinement aux quelque 11 millions d'habitants, contrairement à certains de ses voisins, et avait maintenu les élections générales du 20 mai sans imposer de mesures de distanciation sociale. Officiellement, le Burundi n'a recensé que 170 cas de COVID-19 pour un décès. Ce bilan laisse sceptique bien des médecins, selon lesquels de nombreux cas et décès de personnes présentant les symptômes du virus ont été exclus de ces chiffres. L'archevêque de Kinshasa, figure de proue de l'influente Église catholique en République démocratique du Congo, a demandé mardi au peuple de se tenir en ordre de marche face au mépris dont il accuse la majorité parlementaire de l'ex-président Joseph Kabila. Il accuse la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, de mépris sur la question du renouvellement de la tête à la tête de la très stratégique commission électorale. Monseigneur Ambogo dénonce aussi un projet de réforme de la justice défendu par deux députés pro-Kabila. Emmanuel Macron a jugé possible mardi à Nouakchott la victoire contre les extrémistes islamistes au Sahel grâce à des résultats spectaculaires obtenus au cours des derniers mois et aux efforts fournis par la France et les pays de la région. Le sommet de Nouakchott avait pour but de faire le point sur les progrès accomplis depuis la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel conjoint, la coalition pour le Sahel, définie en janvier lors du précédent sommet de Pau en France. La coalition pour le Sahel est constituée de la France à travers la force Barkhane et ses 5 100 soldats du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad.